They swept the next game to sweep the series.
Kirk hits one to the opposite field. It's hit well. It is gone!
Oh, qu'elle n'est pas finie, cette série-là. Les Blue Jays de Toronto.
Grosse victoire.
Domination 13-4. Victoire sur les Mariners à Seattle. Hier, on en parle avec Marc Griffin. Salut, Marc.
Hey, salut, Marc. Comment ça va?
Salut, les gars.
Marc, je veux t'entendre principalement sur Jimenez hier. Parce que je pense, je vais faire du chemin sur ce que tu as dit la semaine dernière. Quand un frappeur qui frappe un simple, c'est tel que tel. Mais quand un frappeur qui se rend sur les sentiers en raison d'une erreur défensive, tu as l'impression que la porte rouvre. Tu as l'impression que tu as une dose d'énergie supplémentaire. Mais je pense que c'est un peu la même chose lorsque l'attaque provient du 9e frappeur. C'est comme si ça envoie un message à tout le monde. « Hey, let's go, on est capable. » Je me trompe-tu ou parce que c'est Jimenez qui a frappé le premier circuit, ça l'a énergisé le reste de l'équipe?
OK, donc on pense la même affaire. Moi, je pense que si j'ai à choisir le coup sûr important dans le match d'hier, c'est celui-là. Tu sais, 2-0 en partant, tu tires de l'arrière. C'est pas un stade qui favorise les frappeurs. C'est quand même ça. C'est la réalité. Puis là, Jimenez t'en met une de l'autre bord. C'est clair que ça a énergisé tout le monde. Là. Je vous dis pas que c'est ça qui a fait en sorte que Vlad a frappé 4 coups sûrs puis presque. Tu sais, je veux dire, c'est. Mais. Ça te prend cette espèce, parfois, d'étincelle-là. C'est provenu du bâton des Jimenez. C'est clair, net et précis. Écoute, j'écoutais les propos même du lanceur partant des Mariners après le match. Il dit, écoutez, j'ai manqué des tirs, mais je n'ai pas manqué tant que ça des lancers. Mm-hmm. Fait que, autrement dit, il a donné crédit aux frappeurs des Blue Jays. Il dit, ils ont frappé des bons lancers. Je sais, dans le cas des Jimenez, ils viennent rapide un peu plus haute. Puis, whoop, il a laissé un petit peu plus cadré. Puis, mais tu sais, Jimenez... Tu t'attends pas à la longue balle. Là. Ouais. Un simple, on aurait été content de ça. Absolument. Gros coup sûr. Selon moi, le gros coup sûr du match, ça a donné ce que ça a donné. Puis évidemment, le réveil de l'attaque s'est produit à ce moment-là.
Ah ouais, puis tu sais, le réveil de l'attaque qui va faire du bien à bien les joueurs. Bon, on connaît la réputation de Springer. Il est très clutch en éliminatoire. Tu l'as dit, Guerrero, 4 en 4. Il a passé proche du carrousel. Il aurait pu y aller pour le trip.
Ouais, c'est comment faire jeu après un entour du premier but. Mais sinon, quand même, au troisième.
Ça, il aurait pu l'essayer. Mm-hmm. Moi, je pense que même si le match est déjà bouclé, ça va faire beaucoup de bien à Addison Barger d'en avoir catapulté une très loin. Dans la droite. Tu sais, on est en droite, tu l'as dit, là, le momentum, c'est tel que tel, mais je pense que les gars vont se présenter au bâton avec un peu plus de confiance ce soir.
Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont en marquer 13? Non, évidemment, parce que ça va, je le dis souvent, le momentum va aussi loin que le prochain lanceur partant. Là, c'est Luis Castillo du côté des Mariners, qui est très bon, qui n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière, mais qui est quand même solide, ça reste que là, on va arriver avec beaucoup plus de confiance. Il faut arriver... Tu sais, les Blue Jays, ce qu'on a aimé hier en écoutant un peu les quelques commentaires que j'ai obtenus, c'est que on n'était pas du tout en mode panique. On était encore détendu, on croyait en nos chances, ça a fonctionné. C'est un peu la même chose qui doit se produire aujourd'hui. Mais imaginez que vous êtes Max Scherzer dans l'abri d'hier. Là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est dit?
Moi aussi, je suis capable.
Gardez-moi-en.
Ça aussi. Ça, c'est sûr.
Donne-moi un petit coussin, ça travaille mieux qu'un petit coussin.
Ça, c'est sûr, mais en même temps, il faut donner du crédit à Shane Bieber parce que pour un deuxième match de suite, Julio Rodriguez la sort en première manche. Puis en plus, à Seattle, fait que la foule est dans le match. Mais Bieber a été en mesure de se reprendre, de se ressaisir et d'aller chercher des gros retraits. Surtout lorsque ton équipe vient de marquer des points. Moi, je trouve que c'est prioritaire, c'est primordial pour le lanceur partant de lancer un zéro à la demi-manche suivante.
Très important.
Et c'est ce qu'il a fait, Bieber, hier, Marc.
Et non seulement c'est ce qu'il a fait, mais ce qu'il a dit en rentrant dans l'abri, lorsqu'il a accordé les deux points dans la première manche, il savait qu'il y avait de l'étoffe. Parce qu'on l'a vu, évidemment, après, là, à quel point la glissante fonctionnait, le changement de vitesse fonctionnait. Et il a dit, tu sais, ça arrive quelques reprises, pas nécessairement souvent, mais il a dit aux joueurs... « Hey, les gars, pick me up. » Mm-hmm. Ça voulait dire, « Hey, les gars, je l'ai trouvé. Je le sais que je l'ai. Là. Je le sais que là, d'après moi, là, j'en donnerai pas une tonne après ça. » Alors, en disant « pick me up », écoute, là, soudainement, tu as le circuit des Jimenez. La combinaison de tout ça a fait en sorte, « OK, là, on a marqué, on a créé l'égalité avec le circuit, on a continué à marquer des points par la suite. » Puis là, tu le savais. Tu sais, un lanceur, là, c'est comme un frappeur. Tu sais, je sais que je l'ai juste raté. Je sais que la prochaine présence, si j'ai un tir similaire, je vais le frapper. C'est un peu la même chose comme le lanceur. Je l'ai raté, j'ai peut-être pas lancé la meilleure rapide, j'ai peut-être pas. Mais là, hop, je l'ai trouvé. Je le sais que je l'ai, je vais l'avoir. Alors ça, c'est une belle confiance, mais en même temps, c'est très rassurant. Donc, en lançant ça sur le dans l'abri, hey les gars, pick me up là. Moi j'aime ça. Moi je me rappelle quand j'étais joueur, puis le lanceur disait, hey les gars, je viens d'en donner deux, je viens d'en donner trois. Il en marque plus. C'est sûr qu'il en marque plus. Alors, tu sais, il y a une espèce de, tu sais, souvent là, la ligne fine entre confiance et arrogance là. Ben dans le cas de Bieber hier, c'est dit, ok les gars. Je l'ai. Puis effectivement, il est allé au monticule, puis il a dominé par la suite.
Ouais.
Alors, c'est sûr que là, ben l'attaque, aussitôt qu'on a l'air à s'amuser, là, c'est comme si on n'est plus capable d'atteindre tout ça.
Oui, l'attaque qui a très bien fonctionné, là, les 18 coups sûrs des Jays sont survenus sur les trois premiers lancers de la présence. C'est quand même une statistique assez impressionnante. On est très agressif très tôt dans le compte. Marc, je vais t'amener sur Scherzer dans un instant, mais juste avant, je veux t'entendre là-dessus, je suis curieux. Moi, je pense qu'un lanceur peut se faire déconcentrer par des coureurs sur les sentiers. Est-ce que tu penses qu'Arozarena a joué un petit peu dans la tête de Bieber? C'est comme si, dans ma tête, il vient de voler le deuxième, il danse un peu en arrière de lui, et là, pouf, on manque un peu de concentration et on échappe à un lancer au marbre. C'est une facette du jeu que, des fois, on voit moins, et je trouve qu'on gagnerait chez les coureurs à essayer de déconcentrer le lanceur en « Hey, je suis là, oublie-moi pas ».
Les lanceurs détestent les lapins sur les buts. Tu sais, les gazelles, les gars qui peuvent voler. Ils les détestent. Ils vous le diront jamais, là. Tu sais, ils vont voler à cool, ils vont prendre la balle, ils vont mâcher leur gars, mais ils détestent ça. Parce que donner le 90 pieds de plus, là, il est plate en tabarouette. Donc, la gestion de coureur, là, pour un lanceur, c'est que t'as pas 100% ta concentration sur le frappeur. T'es en train, OK, là, faut que je varie mes pauses. Faut que je surveille. Puis là, en plus, avec la nouvelle règle, que je peux seulement, tu sais, pratiquement, sortir mon pied de la plaque à deux reprises. Fait que tout ça, ça joue dans la tête d'un lanceur. M'enlève-vous pas pourquoi Josh Naylor a autant de buts volés. On se dit tout le temps, on s'en préoccupe pas. C'est pas un voleur de buts. Tu sais, c'est un gars qui est lent. Alors, le lanceur veut pas se préoccuper. La gestion de coureur, elle est difficile. Elle est plate à la limite pour le lanceur. Alors, c'est sûr que t'as un gars qui se dandine en arrière puis qui veut courir. Tu sais, c'est fatigant, c'est plate. Ça t'enlève un pourcentage de concentration sur la localisation de ton prochain lancer.
Ah oui, Josh Naylor, un des coureurs les plus lents, qui a 30 buts volés cette année.
Spécial,
comme
vraiment,
quoi,
là.
C'est l'intelligence qui fait voler des buts et non la vitesse de pointe.
Ouais, c'est pas de G un peu. C'est
mais il est brillant.
Ah oui, absolument.
Il analyse le comportement du lanceur.
C'est canadien, ça, hein?
Ouais, c'est exact. Ouais. C'est un gars de Mississauga,
souvent,
je pense.
Souvent, on disait aux coureurs de comme ça, fais-toi ignorer au premier but. Tu sais, crée pas d'attention. Évidemment, Arozarena, lui, c'est différent. C'est un voleur de but, puis il veut créer ça. Mais là, si t'es un coureur, mettons, moyen en termes de vitesse, fais-toi ignorer.
Absolument.
À un moment donné, le lanceur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa pause, il est dans le même rythme, la même pause. Qu'est-ce que le coureur fait? Il va se synchroniser avec le lanceur, puis paf, il est parti. Alors, souvent, c'est ça. Moi, je dis souvent à des jeunes coureurs qui sont pas nécessairement rapides, fais-toi ignorer. Puis là, à un moment donné, on t'oublie carrément. Et dans le cas de Naylor, ça a fonctionné plus de 30 fois cette année.
Ouais, tu prends un step de plus, puis boum, t'es
exact.
Parti, puis c'est ça.
Max Scherzer a pas gagné un match de série depuis 2019. Peut-il y parvenir ce soir, Marc?
Oui. Écoute, puis il a pas lancé depuis un petit bout, là. Moi, c'est un petit peu ça qui, je dirais pas qui m'inquiète, mais qui va falloir surveiller, c'est quel sera son rythme, comment ça va fonctionner, est-ce que ça va prendre une manche et demie, deux manches avant de trouver, tu sais, d'être confortable au monticule. C'est une boîte à surprise, moi. Ce soir, là, je trouve là, que c'est un match qui est très difficile à anticiper.
C'est tout ou rien, d'après moi. C'est soit qu'il t'offre une manche ou ça va bien aller pour 5-6 manches, selon moi.
Moi, je portais à aller avec Gilbert là-dessus. J'ai l'impression que ça va être tout ou rien dans le cas de Scherzer. Puis là, tout, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire 5 manches?
Ouais.
4 manches, 5 manches en gardant ton équipe dans le match? Pense pas qu'il faut s'attendre à voir Scherzer faire un Yamamoto de lui, là.
Non.
Mais regarde, il y a une belle confiance qui vient de s'installer. Ça reste un match crucial, les gars, là. Tu sais, je veux dire, là, on s'emballe. Ça a frappé 13 points, 18 coups sûrs. Mais là, c'est un nouveau match pour commencer à zéro. Okay, c'est pour ça que la confiance y est, mais ça peut être problématique si Scherzer tombe en lançant seulement une manche et deux tiers, par exemple.
Ouais, ça
pourrait compliquer vraiment la tâche.
Est-ce que ça peut être la meilleure affaire qui est arrivée d'être laissé de côté contre les Yankees? Parce que Scherzer, je n'y ai jamais parlé dans ma vie, mais il a l'air orgueilleux. Puis il a l'air fier. C'est un athlète qui veut que ça fonctionne. Je pense qu'il a été piqué dans son orgueil, Marc. D'après moi, il va vouloir sortir une grosse performance ce soir.
Écoute, c'est un super bon point que tu soulignes. Puis, tu sais, l'orgueil peut t'amener aussi loin que ton bras, là. C'est ouais, on verra ce que ça va donner. Mais c'est une situation intéressante à ce niveau-là. Parce que Scherzer, en série, je parle dans les années récentes, là, je parle pas lorsqu'il portait l'uniforme des Nationals, c'était ordinaire, on va se le dire, là. Mais souvent, on mettait le doigt sur la fatigue. Là, là, il peut pas être fatigué, là. Tu comprends? Il a pas lancé depuis un bout de temps. Il doit être certainement prêt. Il doit le savoir depuis déjà quelques jours qu'il lance. Donc, sa préparation a commencé il y a quelques jours. Regarde, ça peut donner... C'est ça la beauté de ce sport-là. C'est que ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Comme ça peut être plus difficile. Mais moi, je m'attends à ce que l'attaque des Mariners soit un petit peu plus agressive face à un gars comme Max Scherzer. Là. On laissera pas les Blue Jays là, se promener dans leur stade comme ça, puis en frappant 18 coups sûrs. Là. Alors, il va y avoir une réplique de l'autre côté également. Là. Alors, si on a senti que les Blue Jays étaient agressifs hier, puis tu l'as dit, on a frappé parmi les trois premiers lancés, ça peut que ce soit la même chose du côté de Seattle ce soir. Là.
Marc, je t'amène ailleurs. On m'a glissé une information ce matin que je veux vérifier avec toi si t'as entendu les mêmes échos. C'est pas la première fois qu'on l'entend, mais ça semble cheminer dans la bonne direction pour la construction d'un stade de baseball à Mirabel. As-tu entendu des rumeurs ou des choses sérieuses en lien avec ça? Paraît que Michel Laplante est pas ben loin de ce projet-là non plus.
Ouais, t'as des bonnes sources.
Ah ouais?
Des bonnes sources.
OK.
Y a quelques projets qui se déroulent présentement un peu partout au Québec. Mirabel est certainement un de ceux-là. Alors, il y a des... Évidemment, comme vous savez, ça prend des gens d'affaires, ça prend des gens intéressés. Et il y en a. Et je vous dis pas qu'il y a une première pelletée de temps demain matin, mais c'est des dossiers qui avancent très, très bien. Je pense que les succès des capitales de Québec dans les dernières années... prouve que si c'est bien fait, si c'est bien géré, si on s'intègre bien dans la communauté, les capitales ont fait un travail remarquable à ce niveau-là, ça peut marcher. Et vous savez, moi je pense que avant même de penser d'avoir un retour des expos éventuels, peu importe si vous croyez ou croyez pas, moi j'ai toujours cru que si on avait eu deux équipes, tu sais, dans la grande région de Montréal qui offre du baseball professionnel à faible coût, faut-il le dire, c'est pas des billets qui coûtent très très cher. On remplit ça, on crée un petit buzz autour de ça, et après ça, tu sais, éventuellement, tu peux créer quelque chose de plus gros. Mais ça pour dire que oui, il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont bien bien fun. Notre sport va bien. Encore une autre augmentation dans le baseball amateur cette année. Tu sais, on a le vent dans les voiles, les Blue Jays qui certainement aident la cause avec ce qu'ils font actuellement. Alors, oui, il y a des belles choses qui se produisent, qui se trament présentement.
Tant mieux, tant mieux.
La seule chose qui me chicote, c'est que c'est à Mirabel. C'est loin en crime, là. Tu sais, les amateurs de la Rive-Sud, même de Montréal, là, c'est un bout, là, aller à Mirabel, là.
Il y a du monde sur la Couronne-Nord, aussi.
Ouais.
Il y a beaucoup de monde sur la Couronne-Nord. Ouais, ça ne veut pas dire, Gilbert, qu'il n'y aura pas d'autre chose qui va se passer, exemple, sur la Rive-Sud ou près, tu sais, donc... c'est un grand territoire, là. On a un grand territoire dans la grande région de Montréal. Ça veut pas dire que tout se passe sur l'île non plus.
Ouais.
Ça prend une volonté, évidemment une petite volonté politique, mais ça prend des hommes d'affaires qui créent ce genre de situation-là.
Ouais. Puis construire à Montréal, il y en a plus énormément des endroits pour construire un stade. C'est pas évident. On n'a même pas.
T'as raison.
Ça coûte une fortune.
C'est sûr que ça coûterait très cher.
Moi, comme on m'avait dit à l'époque des expos, s'il y a une volonté, deux, trois petits buildings, ça se détruit.
Oui.
Fait que,
c'est sûr.
When there's a will, there's a way, comme ils disent.
Ouais. Fait que ça, oui, effectivement. Là. Mais c'est sûr que dans les projets d'un petit stade, les gars, on parle pas de 500 millions. Là, je veux dire, c'est... Donc, c'est des projets qui sont, entre guillemets, prenables.
Mais c'est quoi, 3 000, 4 000 personnes?
Oui, exactement. Là, le stade à Québec, là c'est
3, 4 000?
C'est 4 002, mais avec des gens debout. Là. C'est probablement autour de 4 000 là, assis.
Ouais.
Donc, tu joues dans ces eaux-là. 3 500, 4 000 peut-être maximum. Tout dépend. Est-ce qu'on fait des bleachers, pas de bleachers? Fait quelque chose de très intimiste pour que les gens apprécient vraiment. T'sais, faut-il le dire, en 36 ans d'histoire des expos, on n'a jamais eu une infrastructure de baseball digne de ce nom-là.
Ça, c'est vrai.
Parc Jarry, c'est un parc. Puis le stade olympique, c'est un stade olympique.
Mm-hmm. Ouais, ça, tu mets le dos sur le bobo, là.
Il y a quelqu'un qui, lorsqu'on a démoli le stade de Lorimier, je sais qu'il n'était peut-être pas en très bon état, mais Ça, ça a été peut-être la grande tristesse de tout ça, là, c'est de démolir le seul véritable stade.
Directement dans la ville. Ouais.
À partir de 18h, Brewers contre Dodgers et à 20h30, Blue Jays contre Mariners. Merci Marc, on se reparle demain.
Salut Marc. Marc.
OK les gars.
Bonne,
salut,
game.
Gars, bonne journée.
Bye bye. Après la pause, est-ce que le hockey aux Olympiques à Milan va être un pétard mouillé? La question se pose. Parce qu'on peut avoir des inquiétudes par rapport à ce tournoi-là.
C'est qui encore?
Ben, je vais te dire ça tantôt, Gilbert. Sois patient.
Ben oui.
Ça, c'est comme une reconstruction.
T'es agace, pas mal.
Use de patience.
T'es agace. Ouais, oui, use de patience. On a usé de la patience pas mal avec la construction.
Ben, t'es encore capable pour deux minutes. T'es encore capable. Parfait.